Pourquoi vous rigolez? Alors oui, vous vous demandez pourquoi peut-être j'ai ce cache-œil. Vous allez le comprendre dans quelques instants. Avant cela, j'aimerais juste rappeler qu'il y a 2 semaines, nous avons lu un passage dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18, où Jésus explique à quel point les enfants sont importants pour lui. L'un de ses disciples lui avait posé la question: qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus prend alors un enfant, il le met au centre et il répond ceci, des versets 3 à 5. Alors oui, aujourd'hui, il n'y a pas de texte projeté, mais les textes seront très courts et je donnerai les différents points de la prédication. Alors, Évangile selon Matthieu, chapitre 18, Jésus répond ceci au verset 3 à 5. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit-enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille en mon nom un petit-enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. » Et nous avions parlé de l'importance d'accueillir les enfants, de leur donner une place à part entière. Ils ne sont pas seulement et potentiellement l'Église de demain, ils font partie de l'Église d'aujourd'hui et ils peuvent d'ores et déjà avoir une relation avec Dieu, le servir, être ses témoins et ses disciples. Et nous avions lu la suite qui contient des paroles assez dures de Jésus. Et j'avais dit que je prendrais plus de temps pour y revenir et c'est ce que je vous propose de faire maintenant. Donc, lisons les versets 6 à 10. Je vous lis les versets 6 à 10. Matthieu 18, 6 à 10. Mais, c'est la suite, « Mais si quelqu'un fait tomber dans le péché un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des pièges. Les pièges sont inévitables. Mais malheur à l'homme qui en est responsable. Si ta main ou ton pied te pousse à mal agir, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. » Alors non, je ne me suis pas arraché un œil. C'était pour illustrer ce passage où Jésus recommande de s'arracher un œil si il nous pousse à mal agir. Il vaut mieux entrer au paradis avec un seul œil plutôt que d'avoir les 2 yeux, mais en enfer. Alors rassurez-vous, on va parler de ce que Jésus dit ici. Comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas arraché un œil, je ne vais pas garder le cache-œil pendant toute la prédication parce que ce n'est pas évident de... Je me mets à la place de ceux qui ont ce handicap. C'est pas évident de lire les notes avec un seul œil. Alors un petit instant ça va, mais pendant toute la prédication c'est pas évident. Alors cette partie du chapitre est surprenante, car Jésus semble tout à coup devenir méchant. Il y a même de la violence dans ses paroles. Il parle aussi de l'enfer, ce qui n'est pas très recevable à notre époque, où nous préférons dire que tout le monde a raison, quelles que soient ses croyances. Tout le monde a sa vérité. Tout le monde ira au paradis. Comment comprendre ce passage? Comment annoncer l'Évangile lorsque la personne qui se trouve au cœur de l'Évangile prononce des paroles si dures, si peu attrayantes? L'un de mes anciens profs de théologie, Emile Nicole, que certains d'entre vous connaissent bien, a écrit un article sur les versets 8 à 9 de ce chapitre de Matthieu, où Jésus recommande de s'arracher les membres qui nous poussent à mal agir. Je vous propose de lire son introduction à cet article, car je n'arriverai pas à dire les choses aussi bien que lui. L'article date de 1900, pas le 1800, 1991. Mais en écoutant, vous verrez qu'il dit encore des choses qui, voilà, qui sont vraies encore et peut-être encore plus pour notre époque. Donc je commence la lecture. Il y a quelques années, un homme politique français se plaignait du rôle que jouaient les petites phrases dans la vie politique. Il n'y a pas que la politique qui ait ces petites phrases. La Bible aussi a les siennes. C'est même une des caractéristiques de l'enseignement de Jésus que ces phrases brèves, incisives, qui frappent immédiatement l'auditeur et restent gravées dans la mémoire à cause de la vigueur de l'image ou la force des mots. Alors que Paul démontre, explique, développe, à l'aide de longues phrases et de longs raisonnements, de longs discours dont il faut suivre le raisonnement, Jésus cherche plutôt à marquer, de manière aussi vive que possible, l'esprit de l'auditeur. Cette volonté est si nette, si forte, qu'il ne craint pas, à l'occasion, d'être excessif ou partiel. Si Paul ressemble un peu au professeur, Jésus lui parle comme un maître, comme le maître. C'est cette voix du maître que j'aimerais que nous puissions entendre, sans oublier que c'est lui, le maître, qui parle. Car lancer des petites phrases mordantes, beaucoup en sont capables. Les publicitaires, les hommes politiques, nous aussi. Mais nous savons que ce peut être un jeu dangereux, dévastateur. En écoutant les petites phrases de Jésus, des petites phrases qui font mal, souvenons-nous bien que c'est Jésus qui nous les adresse. Celui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous trouverez du repos pour votre âme, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » En écoutant ces petites phrases, souvenons-nous de ce qu'il a dit, souvenons-nous de ce qu'il a fait. Tandis que nous méditerons sur ces paroles, que chacun puisse garder à présent à l'esprit et au cœur le visage de notre Sauveur, se le représenter guérissant des malades, accueillant des enfants, priant à Gethsémané avant de mourir, souffrant sur la croix. Ces petites phrases ne peuvent être comprises comme des maximes isolées. Elles sont inséparables de l'enseignement et de la personne du maître qui les a prononcées. Le Saint-Esprit ne les a pas inspirées à quelque prophète ou à quelque apôtre, mais Dieu a voulu qu'elles soient dites par le Fils lui-même. Ainsi, nous pouvons savoir que celui qui nous les adresse ne nous veut que du bien. Je dis cela car je me sais terriblement indigne de répéter ces paroles et de vous les adresser. Pour adresser des paroles aussi fortes, il faut être animé d'un amour d'une force extraordinaire. Ou alors, il faut être méchant. Et il arrive, malheureusement, que les prédicateurs soient méchants, indignes de vous adresser des paroles aussi fortes. Je voudrais seulement avec vous les recevoir de la part du Christ qui seul mérite de les dire. Fin de la lecture de l'introduction de l'article. Et je trouve cette introduction très humble, très adaptée à notre texte. En tant que prédicateur, je suis censé simplement présenter le texte biblique de sorte qu'il nous rejoigne dans notre vie d'aujourd'hui. Mais il se peut que le ton utilisé, les mots, la posture du prédicateur soient un frein pour l'Évangile. Personnellement, je suis faillible. Je peux être maladroit ou mal choisir mes mots. Un prédicateur peut même paraître orgueilleux d'avoir la connaissance de la vérité. Il peut paraître hautain, méprisant, méchant, comme le remarque Émile Nicole. Sa posture à lui dans l'article est pour moi un exemple d'humilité. Face à ce genre de texte, gardons à l'esprit que c'est une parole de Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Jésus qui s'est sacrifié et qui a souffert à notre place. Jésus qui offre gratuitement la vie éternelle à tous ceux qui le reçoivent par la foi. Alors je vais tenter d'aborder ce texte de manière simple et j'espère le plus fidèlement possible au message du Christ. Commençons par le verset 6 où Jésus parle d'attacher une meule de moulin et de jeter à l'eau ceux qui causent la chute d'un enfant. Premièrement donc, attacher une meule au moulin à son cou. Qu'est-ce que cela signifie ? Relisons le verset 6. Mais si quelqu'un fait tomber dans le péché un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. De qui Jésus parle-t-il ? Il parle de ceux qui feraient tomber dans le péché les petits-enfants qui croient en lui. Nous avions noté il y a 2 semaines qu'en disant cela, Jésus affirme que les enfants peuvent avoir une foi sincère. Il parle des enfants qui croient en lui. Pas besoin d'attendre un certain âge pour choisir une croyance. D'ailleurs, la foi en Jésus n'est pas un choix avant tout, elle naît d'une rencontre avec Jésus. Ceux qui font tomber dans le péché les enfants qui croient en lui sont ceux qui séparent les enfants de leur Père céleste. Normalement, le verbe « pécher » signifie « manquer le but ». Selon la Bible, le but de notre vie est de glorifier Dieu. Lorsque notre vie ne glorifie pas Dieu, lorsqu'elle déshonore la volonté de Dieu, nous ratons notre vocation, nous manquons le but. Autrement dit, nous avons péché. Celui qui fait tomber les enfants dans le péché, c'est celui qui détourne les enfants de Dieu. C'est celui qui, par ses actes mauvais, enlève les enfants des bras de Dieu. On peut alors comprendre que cela fasse vivement réagir Jésus. Mais je ne pense pas que Jésus parle sous l'effet d'une colère. Je ne pense même pas que Jésus souhaite une sorte de vengeance ou de punition. Relisons encore la deuxième partie du verset. Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Jésus dit que la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est qu'on lui attache une meule de moulin et qu'on le jette à l'eau. Évidemment, Jésus ne dit pas qu'il faut le faire. Il parle au conditionnel. Il dit que c'est préférable, mais il ne nous demande pas d'infliger cela. Pourquoi cette sanction serait-elle une bonne chose pour cette personne ? N'est-ce pas plutôt un acte de torture ? Il me semble que Jésus parle ici de personnes méchantes et responsables de leurs actes, des personnes qui ont le cœur endurci, comme le Pharaon qui n'a pas voulu libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte au temps de Moïse. Ce qui pourrait arriver de mieux pour une telle personne, c'est qu'elle puisse ne plus faire de mal, afin qu'au jour du jugement, il n'ait pas trop de comptes à rendre par rapport à ses atrocités. Évidemment, le mieux qui puisse lui arriver, c'est qu'elle accepte le pardon de Dieu et que ses fautes soient pardonnées. Mais l'on parle ici d'une personne endurcie. La meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est qu'elle soit mise hors d'état de nuire pour avoir moins de comptes à rendre devant Dieu. Comme je l'ai dit, Jésus parle au conditionnel, il exprime ce qui est préférable pour ces personnes méchantes et endurcies, mais il ne nous demande jamais d'agir ainsi. Nous devons continuer, pour notre part, d'annoncer le pardon en Jésus et la grâce. Jésus ne nous demande pas de nous occuper du péché des autres, mais il nous demande de nous occuper des nôtres. Au verset 7, il déclare que le monde est plein de pièges, le monde est rempli de tentations qui peuvent nous éloigner de Dieu, qui peuvent nous faire tomber dans le péché. Mais en tant qu'adultes, nous restons responsables de nos actes. Et si l'un de nos membres nous pousse à mal agir, coupons-le ou arrachons-le. Que veut-il dire par là ? C'est mon deuxième point. Se couper ou s'arracher des membres. La violence de ces paroles est voulue, car Jésus sait que l'être humain a tendance à adoucir les choses et à vite trouver des excuses. Jésus n'est-il pas bienveillant? Si nous croyons en lui, ne sommes-nous pas sauvés, comme le déclarent les Écritures? Oui, mais tout ce que nous faisons ici-bas peut avoir des conséquences dans l'éternité, même pour ceux qui sont sauvés. Jésus a dit que pendant notre vie terrestre, nous pouvons nous amasser des trésors dans le ciel. C'est aussi dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Un risque pour les chrétiens serait de se dire, comme je crois en Jésus, j'irai au paradis. Dieu s'occupe de ma destinée éternelle et moi je n'ai plus qu'à m'occuper des affaires terrestres, en cherchant confort et tranquillité, en attendant d'aller au ciel. Mais Jésus rappelle que notre vie terrestre aura un écho dans notre vie éternelle. C'est pour cela qu'il parle ici de paradis et d'enfer. Il y a un lien entre nos agissements et notre destinée, même pour ceux qui sont sauvés. Évidemment, Jésus utilise ici des images. Dans la Torah, Dieu interdit à son peuple de se mutiler ou même de se faire des incisions sur le corps. Il n'est donc pas question de s'arracher des membres ou des organes. Ce n'est pas en arrachant un œil que l'on va arrêter de convoiter. Il nous restera l'autre œil pour le faire. Si Jésus utilise des images, tout comme il parle de l'enfer comme étant un feu éternel, eh bien c'est pour nous décrire l'urgence et l'importance de nous mettre en règle devant Dieu. Imaginez qu'un crocodile affamé nous court après, la gueule grande ouverte. Que ferions-nous? Allons-nous créer une commission pour réfléchir à la meilleure manière de s'en sortir? Allons-nous organiser un séminaire en invitant un spécialiste pour présenter les différentes solutions? Allons-nous nous asseoir un moment pour réfléchir à la meilleure stratégie à mettre en œuvre pour nous sauver? Je pense que non. Je pense que ce que ferait toute personne sensée, c'est de courir et de s'échapper. Alors il paraît qu'il faut le faire le plus calmement possible, le moins brillamment possible, pour ne pas exciter encore plus l'animal, mais il faut quand même agir rapidement, s'enfuir et se mettre vite hors de danger. Et je pense que dans notre vie chrétienne, surtout dans nos milieux traditionnels, nous aimons bien prendre le temps de réfléchir sur telle ou telle question. Et c'est une très bonne chose, hein. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose d'étudier la parole de Dieu, c'est une bonne chose d'étudier la parole de Dieu. Mais il y a des moments où il est temps d'agir, surtout lorsque nos faiblesses nous incitent à déshonorer Dieu. La foi en Jésus n'est pas une méthode de développement personnel qui promet la tranquillité et le confort à chaque instant. Par définition, le disciple, c'est celui qui suit le maître, celui qui marche sur les pas du maître. Il est appelé à témoigner de l'évangile comme Jésus, à aimer comme Jésus, à annoncer la grâce comme Jésus, et aussi, s'il le faut, à souffrir comme Jésus. Pour conclure, c'est ma conclusion, parlons de grâce, de la grâce. La grâce n'est pas mentionnée dans ce passage, mais dans le contexte de l'Évangile et plus généralement dans le contexte de la Bible, ce passage est rempli de grâce. La grâce, c'est ce qui nous est offert gratuitement par le Christ. Il s'agit du pardon de nos péchés, il s'agit de la vie éternelle, il s'agit du don du Saint-Esprit, il s'agit de l'amour de Dieu. Tout cela est grâce. Mais la grâce n'est pas une excuse pour agir comme nous le souhaitons. La grâce nous permet d'avoir la force de nous faire violence et de souffrir pour Dieu s'il le faut. Pour reprendre l'image de Jésus, je dirais même que seule la grâce nous donne la force aux disciples de s'arracher un œil si celui-ci cause sa chute. Seule la grâce peut nous aider à changer, à devenir meilleur, à nous libérer des péchés qui nous collent à la peau. Prions donc que la grâce de Dieu nous remplisse et nous donne la force de vivre pleinement notre vocation, celle d'honorer Dieu par notre vie. Que nous ne manquions pas le but, mais au contraire, que nous puissions l'atteindre avec l'aide du Saint-Esprit et seulement par sa grâce. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci de nous donner la force et de nous inciter à nous débarrasser rapidement et de manière urgente de ce qui peut causer notre chute. Merci parce que ces paroles ne sont pas des paroles méchantes, mais elles sont animées d'un amour immense. Tu nous aimes tellement que tu oses nous parler ainsi, pour notre bien. Aide-nous à le comprendre, que c'est pour notre bien, à le vivre et à l'appliquer avec ton aide, avec l'aide de ton esprit et de ta grâce. Merci parce que cette grâce est tellement immense qu'elle nous sauve, oui, elle nous sauve gratuitement, sans aucun mérite, mais elle nous donne aussi la force de marcher sur tes pas, toi qui as souffert, toi qui as aimé tes ennemis, toi qui nous aimes, alors que nous nous étions détournés de toi. Aide-nous à être animés de cet amour par ta grâce et de te suivre à chaque pas. Aide-nous à, en tant qu'Église, à marcher vraiment à tes côtés et à suivre ta volonté, à ne pas manquer le but, mais à entrer dans la vocation que tu as prévue pour nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.